Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne, 7e partie. À présent que ces lignes sont écrites, je regarde avec stupeur ma fenêtre ouverte sur la nuit. Le désordre de ma table, les 1000 petits signes visibles à mes yeux seuls, où s'inscrit comme en un mystérieux langage la grande angoisse de ces dernières heures. Suis-je plus lucide? Ou la force du pressentiment qui me permettait de réunir en un seul faisceau des événements par eux-mêmes sans importance, s'est-elle émoussée par la fatigue, l'insomnie, le dégoût? Je l'ignore. Tout cela me semble absurde. Pourquoi n'ai-je pas exigé de M. le comte une explication que le chanoine de la Motte Beuvron jugeait lui-même nécessaire? D'abord, parce que je soupçonne quelque affreux artifice de Mademoiselle Chantal, et que je redoute de le connaître. Et puis, aussi longtemps que la morte sera sous son toit, jusqu'à demain, qu'on se taise. Plus tard, peut-être. Mais il n'y aura pas de plus tard. Ma situation est devenue si difficile dans la paroisse que l'intervention de M. le comte auprès de son Excellence aura certainement plein succès. N'importe. J'ai beau relire ces pages auxquelles mon jugement ne trouve rien à reprendre, elles me paraissent vaines. C'est qu'aucun raisonnement au monde ne saurait provoquer la véritable tristesse, celle de l'âme, ou la vaincre lorsqu'elle est entrée en nous. Dieu sait par quelle brèche de l'être. Que dire? Elle n'est pas entrée. Elle était en nous. Je crois de plus en plus que ce que nous appelons tristesse, angoisse, désespoir, comme pour nous persuader qu'il s'agit de certains mouvements de l'âme, est cette âme même, que depuis la chute, la condition de l'homme est telle qu'il ne saurait plus rien percevoir en lui et hors de lui que sous la forme de l'angoisse. Le plus indifférent au surnaturel garde jusque dans le plaisir la conscience obscure de l'effrayant miracle qu'est l'épanouissement d'une seule joie chez un être capable de concevoir son propre anéantissement et forcé de justifier à grand-peine par ses raisonnements toujours précaires la furieuse révolte de sa chair contre cette hypothèse absurde, hideuse. N'était la vigilante pitié de Dieu? Il me semble qu'à la première conscience qu'il aurait de lui-même, l'homme retomberait en poussière. Je viens de fermer la fenêtre. J'ai allumé un peu de feu. En raison de l'extrême éloignement d'une de mes annexes, je suis dispensé du jeûne sacramentel le jour où je dois y célébrer la Sainte Messe. Jusqu'ici, je n'ai pas usé de cette tolérance. Je vais me faire chauffer un bol de vin sucré. En relisant la lettre de Madame la Comtesse, je croyais la voir elle-même, l'entendre. Je ne désire rien. Sa longue épreuve était achevée, accomplie. La mienne commence. Peut-être est-ce la même? Peut-être Dieu a-t-il voulu mettre sur mes épaules le fardeau dont il venait de délivrer sa créature épuisée? Dans le moment que je l'ai béni, d'où me venait cette joie mêlée de crainte, cette menaçante douceur? La femme que je venais d'absoudre et que la mort allait accueillir quelques heures plus tard au seuil de la chambre familière faite pour la sécurité? Le repos? Je me rappelle que le lendemain, sa montre se trouvait encore pendue au mur à la place où elle l'avait mise en se couchant. Appartenait déjà au monde invisible. J'ai contemplé sans le savoir, sur son front, le reflet de la paix des morts. Il faut payer cela, sûrement. Nota bene. Plusieurs pages ici ont été arrachées, en hâte, semble-t-il. Ce qui reste d'écriture dans les marges est illisible. Chaque mot, haché de traits de plume, marqué si violemment qu'ils ont troué le papier en mains endroits. Une feuille blanche a été laissée intacte. Elle porte seulement ces lignes. Résolu que je suis à ne pas détruire ce journal, mais ayant cru devoir faire disparaître ces pages écrites dans un véritable délire, Je veux néanmoins porter contre moi ce témoignage que ma dure épreuve, la plus grande déception de ma pauvre vie, car je ne saurais rien imaginer de pis, m'a trouvé un moment sans résignation, sans courage, et que la tentation m'est venue de... » La phrase reste inachevée, il manque quelques lignes au début de la page suivante. Qu'il faut savoir rompre à tout prix. Comment ai-je dit à tout prix? Je ne vous comprends pas. Je ne comprends rien à toutes ces finesses. Je suis un malheureux petit prêtre qui ne demande qu'à passer inaperçu. Si je fais des sottises, elles sont à ma mesure, elles me rendent ridicule. Elles devraient faire rire. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi me laisser le temps de voir clair? Mais quoi? On manque de prêtres, à qui la faute? Les sujets d'élite, comme ils disent, s'en vont chez les moines, et c'est à de pauvres paysans comme moi que revient la charge de 3 paroisses. D'ailleurs, je ne suis même pas un paysan, vous le savez bien. Les vrais paysans méprisent les gens comme nous, des valets, des servantes, qui changent de pays au hasard des maîtres, quand ils ne sont pas contrebandiers, braconniers, des pas grand-chose, des hors-la-loi. Oh, je ne me prends pas pour un imbécile. Mieux vaudrait que je fusse un sot, ni héros, ni saint, et même... « Tais-toi, » m'a dit le curé de Torcy, « ne fais pas l'enfant. » Le vent soufflait dur, et j'ai vu tout à coup son cher vieux visage bleui par le froid. « Entre là, je suis gelé. » C'était la petite cabane où Clovis met à l'abri ses fagots. « Je ne veux pas t'accompagner chez toi maintenant. De quoi aurions-nous l'air? Et puis le garagiste, Monsieur Bigre, doit me reconduire en voiture jusqu'à Torcy. » « Au fond, vois-tu, j'aurais dû rester quelques jours de plus à Lille. Ce temps-là ne me vaut rien. »« Vous êtes venu pour moi ?» lui dis-je. Il a d'abord haussé les épaules avec colère. « Et l'enterrement ? D'ailleurs, ça ne te regarde pas, mon garçon. Je fais ce qui me plaît. Viens me voir demain. » Ni demain, ni après-demain, ni probablement cette semaine, à moins que... Assez, d'à moins que... Viens ou ne viens pas, tu calcules trop. Tu es en train de te perdre dans les adverbes. Il faut construire sa vie bien clairement, comme une phrase à la française. Chacun sert le bon Dieu à sa manière, dans sa langue. Quoi? Et même ta tenue, ton air, cette pèlerine par exemple. Cette pèlerine? Mais c'est un cadeau de ma tante. Tu ressembles à un romantique allemand. Et puis cette mine? Il avait une expression que je ne lui avais jamais vue. Presque haineuse. Je crois qu'il s'était d'abord forcé pour me parler sévèrement, mais les mots les plus durs venaient seuls maintenant à sa bouche, et peut-être s'irritait-il de ne pouvoir les retenir. « Je ne fais pas ma mine, » lui dis-je. « Si, d'abord tu te nourris d'une manière absurde. Il faudrait même que je te parle à ce sujet très sérieusement. Je me demande si tu te rends compte que... » Il s'est tu. « Non, plus tard, » a-t-il repris d'une voix radoucie, « nous n'allons pas parler de ça dans cette cahute. Bref, tu te nourris en dépit du bon sens, et tu t'étonnes de souffrir. À ta place, moi aussi j'aurai des crampes d'estomac. Et pour ce qui regarde la vie intérieure, mon ami, je crains que ce ne soit la même chose. Tu ne pries pas assez. Tu souffres trop pour ce que tu pries. Voilà mon idée. Il faut se nourrir à proportion de ses fatigues, et la prière doit être à la mesure de nos peines. C'est que je ne peux pas, m'écriai-je, et j'ai tout de suite regretté l'aveu car son regard est devenu dur. Si tu ne peux pas prier, rabâche. Écoute, j'ai eu mes traverses moi aussi. Le diable m'inspirait une telle horreur de la prière que je suais à grosses gouttes pour dire mon chapelet, hein? Tâche de comprendre. Oh, je comprends, répondis-je, et avec un tel élan qu'il m'a examiné longuement des pieds à la tête, mais sans malveillance, au contraire. « Écoute, » dit-il, « je ne crois pas m'être trompé sur ton compte. Tâche de répondre à la question que je vais te poser. Oh, je te donne ma petite épreuve pour ce qu'elle vaut, ce n'est qu'une idée à moi, un moyen de m'y reconnaître. Il m'a mis dedans plus d'un coup, naturellement. » Bref, j'ai beaucoup réfléchi à ta vocation. Nous sommes tous appelés, soit, seulement pas de la même manière. Et pour simplifier les choses, je commence par essayer de replacer chacun de nous à sa vraie place, dans l'Évangile. Oh, bien sûr, ça nous rajeunit de 2000 ans. Et après, le temps n'est rien pour le bon Dieu, son regard passe au travers. Je me dis que bien avant notre naissance, pour parler le langage humain, notre Seigneur nous a rencontrés quelque part à Bethléem, à Nazareth, sur la route de Galilée, que sais-je. Un jour, entre les jours, ses yeux se sont fixés sur nous et, selon le lieu, l'heure, la conjoncture, notre vocation a pris son caractère particulier. Oh, je ne te donne pas ça pour de la théologie. Enfin, je pense, j'imagine, je rêve, quoi, que si notre âme, qui n'a pas oublié, qui se souvient toujours, pouvait traîner notre pauvre corps de siècle en siècle, lui faire remonter cette énorme pente de 2000 ans, elle le conduirait tout droit à cette même place où... Quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? Je ne m'étais pas aperçu que je pleurais. Je n'y songeais pas. Pourquoi pleures-tu? La vérité est que depuis toujours, c'est au jardin des Oliviers que je me retrouve. Et à ce moment, oui, c'est étrange, à ce moment précis où, posant la main sur l'épaule de Pierre, il fait cette demande, bien inutile en somme, presque naïve, mais si courtoise, si tendre. Dormez-vous? C'était un moment de l'âme très familier, très naturel. Je ne m'en étais pas avisé jusqu'alors, et tout à coup, « Qu'est-ce qui te prend ?» répétait M. le curé de Torcy avec impatience. « Mais tu ne m'écoutes même pas, tu rêves. Mon ami, qui veut prier ne doit pas rêver. Ta prière s'écoute en rêve. Rien de plus grave pour l'âme que cette hémorragie-là. » J'ai ouvert la bouche. J'allais répondre. Je n'ai pas pu. Tant pis. N'est-ce pas assez que notre Seigneur me fait cette grâce de me révéler aujourd'hui, par la bouche de mon vieux maître, que rien ne m'arracherait à la place choisie, pour moi, de toute éternité, que j'étais prisonnier de la sainte agonie. Qui oserait se prévaloir d'une telle grâce? J'ai essuyé mes yeux et je me suis mouché si gauchement que monsieur le curé a souri. Je ne te croyais pas si enfant, tu es à bout de nerfs, mon petit. Mais en même temps, il m'observait de nouveau avec une telle vivacité d'attention que j'avais toutes les peines du monde à me taire, je voyais bouger son regard, et il était comme au bord de mon secret. Oh, c'est un vrai maître des âmes, un seigneur. Enfin, il a haussé les épaules de l'air d'un homme qui renonce. Assez comme ça, nous ne pouvons pas rester jusqu'à ce soir dans cette cahute. Après tout, il est possible que le bon Dieu te tienne dans la tristesse. Mais j'ai toujours remarqué que ces épreuves-là, si grand que soit l'ennui où elles nous jettent, ne fausse jamais notre jugement dès que le bien des âmes l'exige. On m'avait déjà répété sur ton compte des choses ennuyeuses, embêtantes. N'importe, je connais la malice des gens. Mais c'est vrai que tu n'as fait que des bêtises avec la pauvre comtesse. C'est du théâtre. Je ne comprends pas. As-tu lu « L'otage » de M. Paul Claudel? J'ai répondu que je ne sais même pas de qui ni de quoi il parlait. Allons, tant mieux. Il s'agit là-dedans d'une sainte fille qui, sur les conseils d'un curé de ton genre, renie sa parole, épouse un vieux renégat, se livre au désespoir, le tout sous le prétexte d'empêcher le pape d'aller en prison, comme si depuis Saint-Pierre, la place d'un pape n'était pas plutôt à la Mamertine que dans un palais décoré de haut en bas pour ces mauvais sujets de la Renaissance, qui, pour peindre la Sainte Vierge, faisaient poser leurs gitons. Remarque que ce monsieur Claudel est un génie. Je ne dis pas non. Mais ces gens de lettres sont tous pareils. Dès qu'ils veulent toucher à la sainteté, ils se barbouillent de sublime, ils se mettent du sublime partout. La sainteté n'est pas sublime. Et si j'avais confessé l'héroïne, je lui aurais d'abord imposé de changer contre un vrai nom de chrétienne son nom d'oiseau. Elle s'appelle Signe. Et puis de tenir sa parole, car enfin on n'en a qu'une, et notre Saint-Père le Pape lui-même n'y peut rien. Mais en quoi, moi-même, lui dis-je. Cette histoire de médaillon.
De médaillon ?
Je ne pouvais comprendre.
Allons, Nigo. On vous a entendu, on vous a vu. Il n'y a pas de miracle là-dedans, rassure-toi.
Qui nous a vus ?
Sa fille. Mais la Motte Beuvron t'a déjà renseigné, ne fais pas la bête.
Non.
Comment non ?
Par exemple ?
Eh bien, je suis pris. Je pense que je dois maintenant aller jusqu'au bout, hein ?
Je n'ai pas bronché. J'avais eu le temps de reprendre un peu de calme. Au cas où Mademoiselle Chantal eût altéré la vérité, elle l'avait faite avec adresse. J'allais me débattre dans un inexplicable réseau de demi-mensonges dont je ne m'arracherais pas sans risquer de trahir la morte à mon tour. Monsieur le curé semblait étonné de mon silence, déconcerté.
Je me demande ce que tu entends par résignation. Forcer une mère à jeter au feu le seul souvenir qu'elle garde d'un enfant mort, cela ressemble à une histoire juive, c'est de l'Ancien Testament. Et de quel droit as-tu parlé d'une éternelle séparation ?
On ne fait pas chanter les âmes, mon petit.
Vous présentez les choses ainsi, lui dis-je, je pourrais les présenter autrement.
À quoi bon ? L'essentiel est vrai.
Voilà tout ce que tu trouves à répondre ?
Oui. J'ai cru qu'il allait m'accabler. Il est devenu au contraire très pâle, presque livide. J'ai compris alors combien il m'aimait.
Ne restons pas ici plus longtemps, balbutia-t-il. Et surtout, refuse de recevoir la fille. C'est une diablesse.
Je ne lui fermerai pas ma porte. Je ne fermerai ma porte à personne aussi longtemps que je serai curé de cette paroisse.
Elle prétend que sa mère t'a résisté jusqu'au bout, que tu l'as laissée dans une agitation, un désordre d'esprit incroyable. Est-ce vrai ?
Non.
Tu l'as laissée...
Je l'ai laissée avec Dieu, en paix.
Il a poussé un profond soupir.
Songe qu'elle a pu garder en mourant le souvenir de tes exigences, de ta dureté.
Elle est morte en paix.
Qu'en sais-tu ?
Je n'ai même pas été tenté de parler de la lettre. Si l'expression ne devait paraître ridicule, je dirais que de la tête aux pieds, je n'étais plus que silence. Silence et nuit.
Bref, elle est morte. Qu'est-ce que tu veux qu'on pense ? Des scènes pareilles ne valent rien pour une cardiaque.
Je me suis tu. Nous nous sommes quittés sur ces mots.
J'ai regagné lentement le presbytère. Je ne souffrais pas. Je me sentais même soulagé d'un grand poids. Cette entrevue avec M. le curé de Torcy, elle était comme la répétition générale de l'entretien que j'aurais incessamment avec mes supérieurs, et je découvrais presque avec joie que je n'avais rien à dire. Depuis 2 jours, et sans que j'en eusse très clairement conscience, ma crainte était qu'on m'accusât d'une faute que je n'avais pas commise. L'honnêteté, en ce cas, m'eût défendu de garder le silence. Au lieu que j'étais désormais libre de laisser chacun juger à sa guise des actes de mon ministère, d'ailleurs susceptibles d'appréciations fort diverses. Et ce m'était aussi un grand soulagement de penser que Mademoiselle Chantal avait pu se tromper de bonne foi sur le véritable caractère d'une conversation qu'elle n'avait probablement entendue que fort mal. Je suppose qu'elle était dans le jardin, sous la fenêtre, dont l'entablement est très élevé au-dessus du sol. Arrivé au presbytère, j'ai été bien étonné d'avoir faim. Ma provision de pommes n'est pas épuisée. J'en fais cuire assez souvent sur les braises et je les arrose de beurre frais. J'ai aussi des œufs. Le vin est vraiment médiocre, mais chaud et sucré, il devient passable. Je me sentais si frileux que j'ai rempli cette fois ma petite casserole. Cela fait la valeur d'un verre à eau, pas davantage, je le jure. Comme je terminais mon repas, Monsieur le curé de Torcy est entré. La surprise, mais non pas la surprise seule, m'a cloué sur place. Je me suis mis debout tout chancelant, je devais avoir l'air égaré.
En me levant, ma main gauche avait maladroitement effleuré la bouteille. Elle s'est brisée avec un bruit épouvantable. Une rigole de vin noir, bourbeux, s'est mise à couler sur les dalles. « Mon pauvre enfant » a-t-il dit. Et il répétait « C'est ainsi, c'est donc ainsi, d'une voix douce. » Je ne comprenais pas encore, je ne comprenais rien, sinon que l'étrange paix dont je venais de jouir n'était, comme toujours, que l'annonce d'un nouveau malheur. « Ce n'est pas du vin, c'est une affreuse teinture, tu t'empoisonnes, Nigo. » « Je n'en ai pas d'autre. » « Il fallait m'en demander. » « Je vous jure que... »« Tais-toi !» Il a poussé du pied les débris de la bouteille. On aurait dit qu'il écrasait un animal immonde. J'attendais qu'il eût fini, incapable d'articuler un seul mot. « Quelle mine veux-tu avoir, mon pauvre garçon, avec un jus pareil dans l'estomac? Tu devrais être mort !» Il s'était placé devant moi, les deux mains dans les poches de sa douillette, et quand j'ai vu remuer ses épaules, j'ai senti qu'il allait tout dire, qu'il ne me ferait pas grâce d'un mot. « Tiens, j'ai raté la voiture de M. Bigre, mais je suis content d'être venu. Assieds-toi d'abord. »« Non, » fis-je. Et je sentais ma voix trembler dans ma poitrine, ainsi qu'il arrive chaque fois qu'un certain mouvement de l'âme, je ne sais quoi, m'avertit que le moment est venu, que je dois faire face. Faire face n'est pas toujours résister. Je crois même qu'à ce moment, j'aurais avoué n'importe quoi pour qu'on me laissât tranquille avec Dieu. Mais nulle force au monde ne m'aurait empêché de rester debout. « Écoute, » reprit M. le curé de Torcy, « je ne t'en veux pas. Et ne va pas croire que je te prenne pour un ivrogne. » Notre ami Delbande avait mis le doigt sur la plaie du premier coup. Nous autres, dans nos campagnes, nous sommes tous plus ou moins fils d'alcooliques. Tes parents n'ont pas bu plus que les autres, moins peut-être, seulement ils mangeaient mal, ou ils ne mangeaient pas du tout. Ajoute que faute de mieux, ils s'imprégnaient de mixtures dans le genre de celle-ci, des remèdes à tuer à cheval. Que veux-tu, tôt ou tard, tu l'aurais senti, cette soif, une soif qui n'est pas tienne, après tout, et ça dure, va, ça peut durer des siècles, une soif de pauvres gens. C'est un héritage solide. 5 générations de millionnaires n'arrive pas toujours à l'étancher. Elle est dans les os, dans la moelle. Inutile de me répondre que tu ne t'es rendu compte de rien, j'en suis sûr. Et quand tu ne boirais par jour que la ration d'une demoiselle, n'importe, tu es né saturé, mon pauvre bonhomme. Tu glissais tout doucement à demander au vin, et à quel vin, les forces et le courage que tu trouverais dans un bon rôti, un vrai. Humainement parlant, le pis qui puisse nous arriver, c'est de mourir, et tu étais en train de te tuer. Ça ne serait pas une consolation de se dire que tu t'es mis en terre avec une dose qui ne suffirait seulement pas à garder en joie et santé un vigneron d'Anjou. Et remarque que tu n'enfonçais pas le bon Dieu. Mais te voilà prévenu, mon petit, tu l'enfoncerais maintenant. » Il s'est tu. Je l'ai regardé sans y penser. Comme j'ai regardé Mitonnet ou Mademoiselle, ou... Oh oui, je sentais déborder de moi cette tristesse. Mais lui, c'est un homme fort et tranquille, un vrai serviteur de Dieu, un homme. Lui aussi, il fait face. Nous avions l'air de nous dire adieu de loin, d'un bord à l'autre d'une route invisible. Et maintenant, a-t-il conclu d'une voix un peu plus rauque que de coutume, ne te monte pas l'imagination. Je n'ai qu'une parole et je te la donne. Tu es un fameux petit prêtre quand même. Sans vouloir médire de la pauvre morte, il faut avouer que... Laissons cela, dis-je. À ton aise. J'aurais bien voulu m'en aller comme j'avais fait une heure plus tôt dans la cabane du jardinier. Mais il était chez moi, je devais attendre son bon plaisir. Dieu soit loué. Il a permis que le vieux maître ne me manquât pas, remplit encore une fois sa tâche. Son regard inquiet s'est brusquement raffermi et j'ai entendu de nouveau la voix que je connais bien, forte, hardie, pleine d'une mystérieuse allégresse. « Travaille, » a-t-il dit, « fais des petites choses en attendant au jour le jour. Applique-toi bien, rappelle-toi l'écolier penché sur sa page d'écriture et qui tire la langue. Voilà comment le bon Dieu souhaite nous voir lorsqu'il nous abandonne à nos propres forces. Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. C'est comme les fleurs des champs, vois-tu, on les croise sans parfum, et toutes ensemble elles embaument. La prière des petites choses est innocente. Dans chaque petite chose, il y a un ange. Est-ce que tu pries les anges? Mon Dieu, oui, bien sûr. On ne prie pas assez les anges. Ils font un peu peur aux théologiens, rapport à ces vieilles hérésies des églises d'Orient, une peur nerveuse, quoi. Le monde est plein d'anges, et la Sainte Vierge. Est-ce que tu pries la Sainte Vierge? Par exemple? On dit ça. Seulement la pries-tu comme il faut? La pries-tu bien? Elle est notre mère, c'est entendu. Elle est la mère du genre humain, la nouvelle Ève. Mais elle est aussi sa fille. L'ancien monde, le douloureux monde, le monde d'avant la grâce, l'a bercé longtemps sur son cœur désolé, des siècles et des siècles, dans l'attente obscure, incompréhensible, d'une Virgo génitrix. Des siècles et des siècles, il a protégé de ses vieilles mains chargées de crimes, ses lourdes mains, la petite fille merveilleuse dont il ne savait même pas le nom. Une petite fille, cette reine des anges. Et elle l'est restée, ne l'oublie pas. Le Moyen-Âge avait bien compris ça. Le Moyen-Âge a compris tout. Mais va donc empêcher les imbéciles de refaire à leur manière le drame de l'incarnation, comme ils disent. Alors qu'ils croient devoir, pour le prestige, habiller en guignol de modestes juges de paix ou coudre des galons sur la manche des contrôleurs de chemin de fer, ça leur ferait trop honte d'avouer aux incroyants que le seul, l'unique drame, le drame des drames, car il n'y en a pas d'autre, c'est jouer sans décor, sans passementerie. Pense donc. Le verbe s'est fait chair, et les journalistes de ce temps-là n'en ont rien su. Alors que l'expérience de chaque jour leur apprend que les vraies grandeurs, même humaines, le génie, l'héroïsme, l'amour même, leur pauvre amour pour les reconnaître, c'est le diable. Tellement que 99 fois sur 100, ils vont porter leurs fleurs de rhétorique au cimetière. Ils ne se rendent qu'aux morts. La sainteté de Dieu, la simplicité de Dieu, l'effrayante simplicité de Dieu qui a damné l'orgueil des anges. Oui, le démon a dû essayer de la regarder en face et l'immense torche flamboyante à la cime de la création s'est abîmée d'un seul coup dans la nuit. Le peuple juif avait la tête dure, sans quoi il aurait compris qu'un Dieu fait homme, réalisant la perfection de l'homme, risquait de passer inaperçu, qu'il fallait ouvrir l'œil. Et tiens, justement, cet épisode de l'entrée triomphale à Jérusalem, je le trouve si beau. Notre Seigneur a daigné goûter au triomphe comme au reste, comme à la mort. Il n'a rien refusé de nos joies, il n'a refusé que le péché. Mais sa mort, dame, il l'a soignée, rien n'y manque. Au lieu que son triomphe, c'est un triomphe pour enfants, tu ne trouves pas? Une image d'Épinal avec le petit de l'ânesse, les rameaux verts et les gens de la campagne qui battent des mains. Une gentille parodie, un peu ironique, des magnificences impériales. Notre Seigneur a l'air de sourire. Notre Seigneur sourit souvent. Il nous dit « Ne prenez pas ces sortes de choses trop au sérieux. » Mais enfin, il y a des triomphes légitimes. Ça n'est pas défendu de triompher. Quand Jeanne d'Arc rentrera dans Orléans sous les fleurs et les oriflammes, avec sa belle huque de drap d'or, je ne veux pas qu'elle puisse croire mal faire. Puisque vous y tenez tant, mes pauvres enfants, je l'ai sanctifié, votre triomphe, je l'ai béni comme j'ai béni le vin de vos vignes. Et pour les miracles, note bien, c'est la même chose. Il n'en fait pas plus qu'il ne faut. Les miracles, ce sont les images du livre, les belles images. Mais remarque bien maintenant, petit, la Sainte Vierge n'a eu ni triomphe, ni miracle. Son Fils n'a pas permis que la gloire humaine l'effleurât, même du plus fin bout de sa grande aile sauvage. Personne n'a vécu, n'a souffert, n'est mort, aussi simplement et dans une ignorance aussi profonde de sa propre dignité, d'une dignité qui la met pourtant au-dessus des anges. car enfin elle était née sans péché. Quelle solitude étonnante! Une source si pure, si limpide et si pure, qu'elle ne pouvait même pas y voir refléter sa propre image, faite pour la seule joie du Père. Ô solitude sacrée! Les antiques démons familiers d'un homme, maîtres et serviteurs tous ensemble, les terribles patriarches qui ont guidé les premiers pas d'Adam au seuil du monde maudit, la ruse et l'orgueil, tu les vois qui regardent de loin cette créature miraculeuse placée hors de leur atteinte, invulnérable et désarmée. Certes, notre pauvre espèce ne vaut pas cher, mais l'enfance émeut toujours ses entrailles. L'ignorance des petits lui fait baisser les yeux, ces yeux qui savent le bien et le mal, ces yeux qui ont vu tant de choses. Mais ce n'est que l'ignorance, après tout. La Vierge était l'innocence. Rends-toi compte de ce que nous sommes pour elle, nous autres, la race humaine. Oh, naturellement, elle déteste le péché, mais enfin, elle n'a de lui nulle expérience. Cette expérience qui n'a pas manqué au plus grand saint, au saint d'Assise lui-même, tout séraphique qu'il est. Le regard de la Vierge est le seul regard vraiment enfantin, le seul vrai regard d'enfant qui se soit jamais levé sur notre honte et notre malheur. Oui, mon petit, pour la bien prier, il faut sentir sur soi ce regard qui n'est pas tout à fait celui de l'indulgence, car l'indulgence ne va pas sans quelque expérience amère, mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse dont on ne sait quel sentiment encore inconcevable, inexprimable, qui l'a fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien que mère par la grâce, mère des grâces, la cadette du genre humain. Je vous remercie, lui dis-je. Je n'ai trouvé que ce mot-là. Et même, je l'ai prononcé si froidement. Je vous prie de me bénir, et je repris sur le même ton. La vérité est que je luttais depuis 10 minutes contre mon mal, mon affreux mal, qui n'avait jamais été plus pressant. Mon Dieu, la douleur serait encore supportable, mais l'espèce de nausée qui l'accompagne maintenant abat tout à fait mon courage. Nous étions sur le seuil de la porte. « Tu es dans la peine, » m'a-t-il répondu. « C'est à toi de me bénir. » Et il a pris ma main dans la sienne. Il l'a levée rapidement jusqu'à son front, et il est parti. C'est vrai qu'il commençait à vanter dur, mais pour la première fois, je ne l'ai pas vu redresser sa haute taille. Il marchait tout courbé. Après le départ de monsieur le curé, je me suis assis un moment dans ma cuisine. Je ne voulais pas trop réfléchir. Si ce qui m'arrive, songeais-je, prend tant d'importance à mes yeux, c'est parce que je me crois innocent. Il y a certainement beaucoup de prêtres capables de grandes imprudences, et on ne m'accuse pas d'autre chose. Il est très possible que l'émotion ait hâté la mort de madame la comtesse. L'erreur de monsieur le curé de Torcy ne porte que sur le vrai caractère de notre entretien. Si extraordinaire que cela paraisse, une telle pensée m'a été un soulagement. Alors que je déplore sans cesse mon insuffisance, vais-je tant hésiter à me ranger parmi les prêtres médiocres? Mes premiers succès d'écolier ont été trop doux, sans doute, au cœur du petit malheureux que j'étais alors, et le souvenir m'en est resté malgré tout. Je ne supporte pas bien l'idée qu'après avoir été un élève « brillant », entre guillemets, « trop brillant », je dois aujourd'hui m'asseoir au haut des gradins avec les cancres. Je me dis aussi que le dernier reproche de monsieur le curé n'est pas aussi injuste que je l'avais d'abord pensé. Il est vrai que ma conscience ne me fait là-dessus aucun reproche. Je n'ai pas choisi volontiers ce régime qu'il trouve extravagant. Mon estomac n'en supportait pas d'autre, voilà tout. D'ailleurs, pensais-je encore, cette erreur, du moins, n'aurait scandalisé personne. C'est le docteur Delbande qui avait mis en garde mon vieux maître, et le ridicule incident de la bouteille brisée l'aura simplement confirmé dans une opinion toute gratuite. J'ai fini par sourire de mes craintes. Sans doute, madame Pégriot, mitonnée, Monsieur le comte, quelques autres n'ignorent pas que je bois du vin, et après, il serait trop absurde qu'on dût m'imputer à crime une faute qui ne serait tout au plus qu'un péché de gourmandise, familier à beaucoup de mes confrères, et Dieu sait que je ne passe pas ici pour gourmand. J'ai interrompu ce journal depuis 2 jours. J'avais beaucoup de répugnance à poursuivre. Réflexion faite, je crains d'obéir moins à un scrupule légitime qu'à un sentiment de honte. Je tâcherai d'aller jusqu'au bout. Après le départ de M. le curé de Torcy, je suis sorti. Je devais aller d'abord prendre des nouvelles d'un malade, M. Duplouis. Je l'ai trouvé râlant. Il ne souffrait pourtant que d'une pneumonie assez bénigne, au dire du médecin. Mais c'est un gros homme. Son cœur trop gras a cédé tout à coup. Sa femme, accroupie devant l'âtre, faisait tranquillement chauffer une tasse de café. Elle ne se rendait compte de rien. Elle a dit simplement « Vous avez peut-être raison, il va passer. » Quelque temps après, ayant soulevé le drap, elle a dit encore « Le voilà qui se lâche, c'est la fin. » Lorsque je suis arrivé avec les saintes huiles, il était mort. J'avais couru. J'ai eu tort d'accepter une grande tasse de café mêlée de genièvre. Le genièvre m'écœure. Ce qu'affirmait le docteur Delbande est vrai sans doute. Mon écœurement ressemble à celui de la satiété, d'une horrible satiété. L'odeur suffit. J'ai l'impression que ma langue se gonfle dans ma bouche comme une éponge. J'aurais dû rentrer au presbytère. Chez moi, dans ma chambre, l'expérience m'a enseigné peu à peu certaines pratiques dont on rirait, mais qui me permettent de lutter contre mon mal de l'assoupir. Quiconque a l'habitude de souffrir finit très bien par comprendre que la douleur doit être ménagée, qu'on en vient souvent à bout par la ruse. Chacune a d'ailleurs sa personnalité, ses préférences, mais elles sont toutes méchantes et stupides, et le procédé qui s'est révélé bon une fois peut servir indéfiniment. Bref, je sentais que l'assaut serait dur. J'ai commis la sottise de vouloir lui résister de front. Dieu l'a permis. Cela m'a perdu, je le crains. La nuit est tombée très vite. Pour comble de malheur, j'avais des visites à faire aux environs du Fond Galba. Les chemins y sont mauvais. Il ne pleuvait pas, mais la terre est d'argile, elle collait à mes semelles, ne sèche qu'en nous. Chaque fois, les gens me faisaient place au foyer, près du poêle, bourré d'un gros charbon de bruet. Mes tempes battaient au point qu'il m'était difficile d'entendre. Je répondais un peu au hasard. Je devais avoir l'air bien étrange. Néanmoins, j'ai tenu bon. Un voyage au Fond Galba est toujours pénible en raison de l'éloignement des maisons disséminées à travers les prairies, et je ne voulais pas risquer d'y perdre une autre soirée. De temps en temps, je consultais furtivement mon petit carnet. Je barrais les noms à mesure. La liste me paraissait interminable. Lorsque je me suis retrouvé dehors, ma tâche achevée, je me sentais si mal que le cœur m'a manqué de rejoindre la grande route. J'ai suivi la lisière du bois. Ce chemin me faisait passer très près de la maison des Dumouchel, où je désirais me rendre. Depuis 2 semaines, en effet, Séraphita ne paraît plus au catéchisme. Je m'étais promis d'interroger son père. J'ai d'abord marché avec assez de courage. Ma douleur d'estomac semblait moins violente. Je ne souffrais plus guère que de vertiges et de nausées. Je me rappelle très bien avoir dépassé la corne du bois d'Auchy. Une première défaillance a dû me prendre un peu au-delà. Je croyais encore lutter pour me tenir debout, et je sentais cependant contre ma joue l'argile glacée. Je me suis levé enfin. J'ai même cherché mon chapelet dans les ronces. Ma pauvre tête n'en pouvait plus. L'image de la Vierge enfant, telle que me l'avait suggéré Monsieur le curé, s'y présentait sans cesse, et, quelque effort que je fisse pour reprendre pleinement conscience, la prière commencée s'achevait en rêverie dont je discernais par instant l'absurdité. Combien de temps ai-je ainsi marché? Je ne saurais le dire. Agréables ou non, les fantômes n'apaisaient pas la douleur intolérable qui me ployait en deux. Je crois qu'elle seule m'empêchait de sombrer dans la folie. Elle était comme un point fixe dans le vain déroulement de mes songes.
Ils me poursuivent encore au moment où j'écris, et, grâce au ciel, ne me laissent aucun remords, car ma volonté ne les acceptait point. Elle en réprouvait la témérité. Quelle est puissante la parole d'un homme de Dieu! Certes, je l'affirme ici solennellement, je n'ai jamais cru à une vision, au sens que l'on donne à ce mot, car le souvenir de mon indignité et de mon malheur ne m'a, pour ainsi dire, pas quitté. Il n'en est pas moins vrai que l'image qui se formait en moi n'était pas de celle que l'esprit accueille ou repousse à son gré. Oserais-je en faire l'aveu? Ici, 10 lignes raturées. La créature sublime dont les petites mains ont détendu la foudre, ses mains pleines de grâce. Je regardais ses mains. Tantôt je les voyais, tantôt je ne les voyais plus, et comme ma douleur devenait excessive, que je me sentais glisser de nouveau, j'ai pris l'une d'elles dans la mienne. C'était une main d'enfant, d'enfant pauvre, déjà usée par le travail, les lessives. Comment exprimer cela? Je ne voulais pas que ce fût un rêve, et pourtant je me souviens d'avoir fermé les yeux. Je craignais, en levant les paupières, d'apercevoir le visage devant lequel tout genou fléchit. Je l'ai vu. C'était aussi un visage d'enfant, ou de très jeune fille, sans aucun éclat. C'était le visage même de la tristesse, mais d'une tristesse que je ne connaissais pas, à laquelle je ne pouvais avoir nulle part, si proche de mon cœur, de mon misérable cœur d'homme, et néanmoins inaccessible. Il n'est pas de tristesse humaine sans amertume, et celle-là n'était que suavité, sans révolte, et celle-là n'était qu'acceptation. Elle faisait penser à je ne sais quelle grande nuit douce, infinie. Notre tristesse, enfin, naît de l'expérience de nos misères, expérience toujours impure, et celle-là était innocente. Elle était l'innocence. J'ai compris alors la signification de certaines paroles de monsieur le curé qui m'avaient paru obscures. Il a fallu jadis que Dieu voilât par quelque prodige cette tristesse virginale, car, si aveugles et durs que soient les hommes, ils eussent reconnu à ce signe leur fille précieuse, la dernière née de leur race antique, l'otage céleste autour duquel rugissaient les démons, et ils se fussent levés tous ensemble, ils lui eussent fait un rempart de leur corps mortel. Je pense avoir marché quelque temps encore, mais je m'étais écarté du chemin. Je trébuchais dans l'herbe épaisse trempée de pluie qui s'enfonçait sous mes semelles. Lorsque je me suis aperçu de mon erreur, j'étais devant une haie qui m'a paru trop haute et trop fournie pour que j'espérasse la franchir. Je l'ai longée. L'eau ruisselait des branches et m'inondait le cou, les bras. La douleur s'apaisait peu à peu, mais je crachais sans cesse une eau tiède qui me paraissait avoir le goût des larmes. L'effort de prendre mon mouchoir dans ma poche me paraissait absolument irréalisable. Je n'avais d'ailleurs nullement perdu connaissance. Je me sentais simplement l'esclave d'une souffrance trop vive, ou plutôt du souvenir de cette souffrance, car la certitude de son retour était plus angoissante que la souffrance même. Et je la suivais comme un chien suit son maître. Je me disais aussi que j'allais tomber dans un moment, qu'on me trouverait là, demi-mort, que ce serait un scandale de plus. Il me semble que j'ai appelé. Tout à coup, mon bras qui s'appuyait à la haie s'est trouvé dans le vide, tandis que le sol manquait. J'étais parvenu, sans m'en douter, au bord du talus, et j'ai heurté violemment des deux genoux. Et du front la surface pierreuse de la route. Une minute encore, j'ai cru que je m'étais remis sur pied, que je marchais. Puis je me suis aperçu que ce n'était qu'en rêve. La nuit m'a paru soudain plus noire, plus compacte. J'ai pensé que je tombais de nouveau, mais cette fois c'était dans le silence. J'y ai glissé d'un seul coup. Il s'est refermé sur moi. En rouvrant les yeux, la mémoire m'est revenue aussitôt. Il m'a semblé que le jour se levait. C'était le reflet d'une lanterne sur le talus, en face de moi.
Je voyais aussi une autre clarté sur la gauche dans les arbres, et j'ai reconnu du premier coup d'œil la maison des Dumouchel à sa véranda ridicule. Ma soutane trempée collait à mon dos, j'étais seul. On avait posé la lanterne tout près de ma tête, une de ces lanternes d'écurie au pétrole qui donne plus de fumée que de lumière. Un gros insecte tournait autour. J'ai essayé de me lever sans y réussir, mais je me sentais quelque force, je ne souffrais plus. Enfin, je me suis trouvé assis. De l'autre côté de la haie, j'entendais geindre et souffler les bestiaux. Je me rendais parfaitement compte que, même au cas où je parviendrais à me mettre debout, il était trop tard pour fuir, qu'il ne me restait plus qu'à supporter patiemment la curiosité de celui qui m'avait découvert, qui reviendrait bientôt chercher sa lanterne. « Hélas, pensais-je, la maison des Dumouchel est bien la dernière auprès de laquelle j'aurais souhaité qu'on me ramassât. » J'ai pu me relever sur les genoux et nous nous sommes trouvés brusquement face à face. Debout, elle n'était pas plus haute que moi. Sa maigre petite figure n'était guère moins rusée que d'habitude, mais ce que j'ai remarqué d'abord était un air de gravité douce, un peu solennel, presque comique. J'avais reconnu Séraphita. Je lui ai souri. Elle a probablement cru que je me moquais d'elle. La mauvaise lueur s'est allumée dans son regard gris, si peu enfantin, et qui m'a fait plus d'une fois baisser les yeux. Je me suis aperçu alors qu'elle tenait à la main une jatte de terre remplie d'eau, où nageait une espèce de chiffon, pas trop propre. Elle a pris la jatte entre les genoux. « J'ai été la remplir à la mare, » fit-elle. « C'était plus sûr. Ils sont tous là-bas, dans la maison, à cause de la noce du cousin Victor. Moi, je suis sortie pour rentrer les bêtes. »« Ne risque pas d'être punie. » »«
Punie ? On ne m'a jamais punie. » »«
Un jour, le père a levé la main sur moi. « Ne t'avise pas de me toucher, » que je lui ai dit. « Ou je mène la rousse à la mauvaise herbe, elle crèvera d'enflure. »
La rousse est notre plus belle vache.
Tu n'aurais pas dû parler ainsi, c'est mal.
Le mal, a-t-elle répliqué en haussant les épaules avec malice, c'est de se mettre dans un état comme vous voilà.
Je me suis senti pâlir. Elle m'a regardé curieusement. Une chance que je vous ai trouvé. En poursuivant les bêtes, mon sabot a roulé dans le chemin, je suis descendu, je vous croyais mort.
« Je vais mieux. Je vais me lever. »«
Ne l'ai pas rentré fait comme vous êtes, au moins. »«
Qu'est-ce que j'ai ?»«
Vous avez vomi. Vous avez la figure barbouillée comme si vous aviez mangé des mûres. »
J'ai essayé de prendre la jatte. Elle a failli m'échapper des mains.
« Vous tremblez trop, m'a-t-elle dit. Laissez-moi, j'ai l'habitude. Oh là là, c'était bien autre chose à la noce de mon frère Narcisse. »«
Hein, qu'est-ce que vous dites ?»
Je claquais des dents. Elle a fini par comprendre que je lui demandais de venir le lendemain au presbytère, que je lui expliquerais.
« Ma foi, non. J'ai raconté du mal de vous, des horreurs. Vous devriez me battre.
Je suis jalouse, horriblement jalouse, jalouse comme une bête. Et méfiez-vous des autres, ce sont des cafardes, des hypocrites. »
Tout en parlant, elle me passait son chiffon sur le front, les joues. L'eau fraîche me faisait du bien, je me suis levé, mais je tremblais toujours aussi fort. Enfin, ce frisson a cessé. Ma petite samaritaine levait sa lanterne à la hauteur de mon menton pour mieux juger de son travail, je suppose. « Si vous voulez, je vous accompagnerai jusqu'au bout du chemin. Prenez garde aux trous. Une fois hors des pâturages, ça ira tout seul. » Elle est partie devant moi. Puis, le sentier s'élargissant, elle s'est rangée à mon côté, et quelques pas plus loin, a mis sa main dans la mienne, sagement. Nous ne parlions ni l'un ni l'autre. Les vaches appelaient lugubrement. Nous avons entendu le claquement d'une porte au loin. « Faut que je rentre, » a-t-elle dit. Mais elle s'est plantée devant moi, dressée sur ses petites jambes.
« N'oubliez pas de vous coucher en rentrant. C'est ce qu'il y a de mieux. Seulement vous n'avez personne pour vous faire chauffer du café. » Un homme sans femme, je trouve ça bien malheureux, bien emprunté. Je ne pouvais détacher les yeux de son visage. Tout y est flétri, presque vieillot, sauf le front resté si pur. Je n'aurais pas cru ce front si pur. Écoutez, ce que j'ai dit, n'allez pas le croire. Je sais bien que vous ne l'avez pas fait exprès. Ils vous auront mis une poudre dans votre verre, c'est une chose qui les amuse, une farce. Mais grâce à moi, ils ne s'apercevront de rien. Ils seront bien attrapés. Ouctet, petite garce ! J'ai reconnu la voix du père. Elle a sauté le talus, sans plus de bruit qu'un chat, ses deux sabots d'une main, sa lanterne de l'autre. Chut ! Rentrez vite ! Cette nuit même, j'ai rêvé de vous. Vous aviez l'air triste, comme maintenant. Je me suis réveillé tout pleurant. Chez moi, il m'a fallu laver ma soutane. L'étoffe était raide, l'eau est devenue rouge. J'ai compris que j'avais rendu beaucoup de sang. En me couchant, j'étais presque décidé à prendre dès l'aube un train pour Lille. Ma surprise était telle, la crainte de la mort est venue plus tard, que si le vieux docteur Delban eût vécu, j'aurais sans doute couru jusqu'à Dèvres, en pleine nuit. Et ce que je n'attendais pas, s'est justement réalisé, comme toujours. J'ai dormi d'un trait. Je me suis réveillé très dispos avec les coqs. Même un fou rire m'a pris en regardant de près mon triste visage, tandis que je passais et repassais le rasoir sur une barbe dont aucun racloir n'aurait jamais raison. Une vraie barbe de cheminot, de roulier. Après tout, le sang qui tache ma soutane pourrait provenir d'un saignement de nez. Comment une hypothèse si plausible ne s'est-elle pas présentée d'abord? Mais l'hémorragie aura eu lieu pendant ma courte syncope, et j'étais resté, avant de perdre connaissance, sous l'impression d'une horrible nausée. J'irai néanmoins consulter à Lille cette semaine, sans faute. Après la messe, visite à mon confrère d'Occolte pour le prier de me remplacer en cas d'absence. C'est un prêtre que je connais peu, mais presque du même âge que moi, il m'inspire confiance. Malgré tous les lavages, le plastron de ma soutane est horrible à voir. J'ai raconté qu'un flacon d'encre rouge s'était renversé dans l'armoire, et il m'a prêté obligeamment une vieille douillette. Que pense-t-il de moi? Je n'ai pu lire dans son regard. Monsieur le curé de Torcy a été transporté hier dans une clinique d'Amiens. Il souffre d'une crise cardiaque peu grave, dit-on, mais qui exige des soins, l'assistance d'une infirmière. Il a laissé pour moi un billet griffonné au crayon alors qu'il prenait place dans l'ambulance. « Mon petit gribouille, prie bien le bon Dieu et viens me voir à Amiens la semaine prochaine. » Au moment de quitter l'église, je me suis trouvé en face de Mademoiselle Louise. Je la croyais très loin d'ici. Elle était venue d'Arche à pied. Ses souliers étaient pleins de boue, son visage m'a paru sale et défait. Un de ses gants de laine, tout troué, découvrait ses doigts. Elle, jadis si soignée, si correcte, cela m'a fait une peine horrible, et pourtant, dès le premier mot, j'ai compris que sa souffrance était de celle qu'on ne peut avouer. Elle m'a dit que ses gages n'étaient plus payés depuis 6 mois, que le notaire de M. le comte lui proposait une transaction inacceptable, qu'elle n'osait s'éloigner d'Arche, vivait à l'hôtel. Monsieur va se trouver très seul, c'est un homme faible, égoïste, attaché à ses habitudes. Sa fille n'en fera qu'une bouchée. J'ai compris qu'elle espérait encore, je n'ose dire quoi. Elle s'efforçait d'arrondir ses phrases, comme jadis, et par moments, sa voix ressemblait à celle de Madame la Comtesse, dont elle apprit aussi le plissement des paupières sur le regard myope. L'humiliation volontaire est royale, mais ce n'est pas très beau à voir une vanité décomposée. Même Madame, a-t-elle dit, me traitait en personne de condition. D'ailleurs, mon grand-oncle, le commandant Eudener, avait épousé une demoiselle. Les noiselles sont de leurs parents. L'épreuve que Dieu m'envoie, je n'ai pu m'empêcher de l'interrompre. N'invoquez pas Dieu si légèrement. Oh, il vous est facile de me condamner, me mépriser. Vous ne savez pas ce que c'est que la solitude. On ne sait jamais, dis-je, on ne va jamais jusqu'au fond de la solitude.
Enfin, vous avez vos occupations, les jours passent vite.
Cela m'a fait sourire malgré moi.
Vous devez maintenant vous éloigner, lui dis-je, quitter le pays. Je vous promets d'obtenir ce qui vous est dû. Je vous le ferai tenir à l'endroit que vous m'indiquerez.
Grâce à mademoiselle, sans doute. Je ne pense aucun mal de cet enfant, je lui pardonne. C'est une nature violente, mais généreuse. J'imagine parfois qu'une explication franche.
Elle avait ôté un de ses gants et le pétrissait nerveusement contre sa paume. Elle me faisait pitié, certes, et aussi un peu horreur.
Mademoiselle, lui dis-je, à défaut d'autre chose, la fierté devrait vous interdire certaines démarches, d'ailleurs inutiles. Et l'extraordinaire, c'est que vous prétendiez m'y associer.
La fierté? Quitter ce pays où j'ai vécu heureuse, considérée, presque l'égale des maîtres, pour m'en aller comme une mendiante. Est-ce là ce que vous appelez fierté? Hier déjà au marché, des paysans qui m'auraient jadis salué jusqu'à terre faisaient semblant de ne pas me reconnaître.
Ne le reconnaissez pas non plus. Soyez fier.
La fierté, toujours la fierté. Qu'est-ce que la fierté d'abord? Je n'avais jamais pensé que la fierté fût une des vertus théologales. Je m'étonne même de trouver ce mot dans votre bouche.
Pardon, lui dis-je, si vous voulez parler au prêtre, il vous demandera l'aveu de vos fautes pour avoir le droit de vous en absoudre.
Je ne veux rien de pareil.
Permettez-moi donc alors de m'adresser à vous dans un langage que vous puissiez comprendre.
Un langage humain?
Pourquoi pas? Il est beau de s'élever au-dessus de la fierté. Encore faut-il l'atteindre. Je n'ai pas le droit de parler librement de l'honneur selon le monde. Ce n'est pas un sujet de conversation pour un pauvre prêtre tel que moi. Mais je trouve parfois qu'on fait trop bon marché de l'honneur. Hélas, nous sommes tous capables de nous coucher dans la boue paraît fraîche aux cœurs épuisés. Et la honte, voyez-vous, c'est un sommeil comme un autre, un lourd sommeil, une ivresse sans rêve. Si un dernier reste d'orgueil doit remettre debout un malheureux, pourquoi y regarderait-on de si près?
Je suis cette malheureuse?
Oui, lui dis-je.
Et je ne me permets de vous humilier que dans l'espoir de vous épargner une humiliation plus douloureuse, irréparable, qui vous dégraderait à vos yeux pour toujours.
Abandonnez ce projet de revoir, mademoiselle Chantal. Vous vous aviliriez en vain, vous seriez écrasée, piétinée.
Je me suis tue.
Je voyais qu'elle se forçait à la révolte, à la colère.
J'aurais voulu trouver une parole de pitié, mais celle qui se présentait à mon esprit n'eût servi, je le sentais, qu'à l'attendrir sur elle-même, ouvrir la source d'ignobles larmes. Jamais je n'avais mieux compris mon impuissance en face de certaines infortunes auxquelles je ne saurais avoir part, quoi que je fasse.
Oui, dit-elle, entre Chantal et moi, vous n'hésitez pas. C'est moi qui ne suis pas de force. Elle m'a brisé.
Ce mot m'a rappelé une phrase de mon dernier entretien avec Madame la Comtesse. Dieu vous brisera, m'étais-je écrié. Un pareil souvenir en cet instant m'a fait mal. Il n'y a rien à briser en vous, ai-je dit. J'ai regretté cette parole. Je ne la regrette plus. Elle est sortie de mon cœur.
C'est vous qui êtes sa dupe. A répliqué mademoiselle, avec une triste grimace. Elle n'élevait pas la voix, elle parlait seulement plus vite, très vite. Je ne puis d'ailleurs tout rapporter, cela coulait intarissablement de ses lèvres gercées. Elle vous hait depuis le premier jour, elle a une espèce de clairvoyance diabolique, et quelle ruse! Rien ne lui échappe. Dès qu'elle met le nez dehors, les enfants lui courent après, elle les bourre de sucre, ils l'adorent. Elle leur parle de vous, ils lui racontent je ne sais quelles histoires de catéchisme, elle imite votre démarche, votre voix. Vous l'obsédez, c'est clair, et quiconque l'obsède, elle en fait son souffre-douleur, elle le poursuit jusqu'à la mort, elle est d'ailleurs sans pitié. Avant-hier encore, j'ai senti comme un coup dans la poitrine. Taisez-vous, ai-je dit. Il faut pourtant que vous sachiez ce qu'elle est. »
Je le sais, m'écriai-je, vous ne pouvez pas la comprendre.
Elle a tendu vers moi son pauvre visage humilié. Sur sa joue livide, presque grise, le vent avait dû sécher des larmes, cela faisait une traînée luisante qui se perdait dans le creux d'ombre des pommettes. J'ai causé avec Famchon, l'aide-jardinier qui sert à table en l'absence de François. Chantal a tout raconté à son père, il se tordait de rire. Elle avait trouvé un petit livre près de la maison du Mouchel, elle a lu votre nom à la première page. Alors l'idée lui est venue d'interroger Séraphita, et la petite, comme toujours, s'est laissée tirer les vers du nez. Je la regardais, stupide, sans pouvoir articuler un mot. Même en ce moment où elle eût dû savourer sa vengeance, la colère n'arrivait pas à donner une autre expression à ses tristes yeux que celle d'une résignation de bête domestique. Son visage était seulement un peu moins pâle. « Il paraît que la petite vous a trouvé ronflant dans le chemin de... » Je lui ai tourné le dos. Elle a couru derrière moi, et en voyant sa main sur ma manche, je n'ai pu réprimer un mouvement de dégoût. Il m'a fallu un grand effort pour la prendre dans la mienne et l'écarter doucement. « Allez-vous-en, lui dis-je, je prierai pour vous. » Elle m'a fait enfin pitié. « Tout s'arrangera, je vous le promets. J'irai voir monsieur le comte. » Elle s'est éloignée rapidement, tête basse et légèrement de biais, ainsi qu'un animal blessé. Monsieur le chanoine de la Motte Beuvron vient de quitter Ambricourt. Je ne l'ai pas revu. Aperçu aujourd'hui Séraphita. Elle gardait sa vache assise au bout du talus. Je me suis approché, pas de beaucoup, elle s'est enfuie.